après la chanson venue.
Vous écoutez Popoy sur CIT 89,5 FM de 11h à 13h chaque dimanche. Popoy, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Soyez des nôtres sur CIT 89,5 FM, Popoy, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Universitaire de Toronto, Half House, bienvenue à Popoy, Toronto, Ontario, Canada. Et oui, mesdames, messieurs, pour nous joindre tout au long de cette édition, pot.poury@sympatico.ca, l'ingénieur du son, le capitaine de Vera au microphone, Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h. Sur www.tut.fm. Dimanche 19 février 2012, Noirs et Français, une longue histoire culturelle et sociale, c'est toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Un long combat pour l'égalité absent, de nos livres d'histoire, une injustice réparée par un ouvrage ou un documentaire qui font date, signé Pascal Blanchard, une émission proposée par Valérie Nivelon du magazine de la Marche du Monde, collaboration RFI. Et du journal Express de Toronto, Les Improbables, première ligue francophone d'improvisation à Toronto, c'est-à-dire absolument en première page. Le collège Glendon dans la région de Toronto, campus bilingue de l'Université York, est en phase d'élargir un peu plus son éventail de programmes et de cours grâce à un nouveau bâtiment qui ouvrira ses portes sur le campus au printemps. Qui sont les auditeurs de nos radios francophones, de nos médias francophones? Eh bien, le gouvernement de l'Ontario a demandé à l'Office des affaires francophones et au groupe Média TFO de réaliser une étude sur les habitudes médiatiques des franco-ontariens qui comprendra en plus des radios communautaires, les journaux, la télévision, Internet et les médias sociaux. Au Québec, la ministre de l'Éducation rabroue l'enseignant qui a censuré une chanson d'Édith Piaf. Malgré cela, comme il a reçu l'appui de sa commission scolaire, le professeur de musique maintiendra sa décision de ne pas discuter en classe de la finale de la célèbre chanson « Dieu réunit ceux qui s'aiment » sous prétexte qu'il n'a pas le mandat d'aborder des thèmes religieux en classe. Immigration, depuis 2008, le réseau de l'éducation en langue française en Ontario mène plusieurs initiatives visant à sensibiliser les Ontariens aux avantages de l'éducation en langue française. Une nouvelle campagne de sensibilisation sous la forme d'une vidéo ciblant les nouveaux immigrants francophones vient d'être lancée pour inciter à tirer profit de nos écoles françaises en Ontario. Réaction mitigée de nos auditeurs et lecteurs du journal L'Express de Toronto, une très bonne initiative qui aurait dû être faite depuis longtemps. Nous perdons nos immigrants francophones aux écoles anglophones et ils sont donc assimilés. Si nous voulons survivre comme communauté francophone, on se doit d'aller chercher les immigrants francophones. Une lectrice de l'Express de Toronto. Sur la scène internationale, au Sénégal, la situation se dégrade à une semaine de la présidentielle. Et à 7 jours du premier tour de la présidentielle au Sénégal, la mobilisation d'une partie de la rue contre la candidature du président Wade ne faiblit pas. Des manifestants ont de nouveau dressé à Dakar des barricades, brûlées, pneus et poubelles et affronté la police anti-émeute. On nous dit même qu'il y a eu un ou deux morts depuis hier au Sénégal. En Haïti, heure entre groupe d'étudiants et le cortège présidentiel. Cela s'est passé cette semaine. Une fusillade a éclaté près de la faculté d'ethnologie au Port-au-Prince entre des étudiants et des partisans du président accompagnés de policiers. L'incident qui s'est déroulé alors que Haïti se prépare à célébrer le carnaval aurait fait 3 blessés. À l'île de la Réunion, nous apprenons ce matin, Saint-Denis, barrage au chaudron contre la vie chère. Les Réunionnais lancent un cri de désespoir. Les médias se mobilisent. À l'île Maurice, la crise économique plane sur les grandes entreprises et la compagnie aérienne Air Mauritius n'est pas épargnée. Des pertes d'un peu plus de 1 milliard de roupies. Et oui, le chef de l'opposition, Paul Béranger, vient au banc des accusés, le Premier ministre Navin Ramgoolam. Le spectaculaire carnaval de Rio, le plus beau carnaval du monde, a démarré vendredi. Près de 2 millions de personnes environ en 6 jours de fête. Le roi Momo a reçu vendredi la clé symbolique de Rio de Janeiro et a donné le coup d'envoi du carnaval. Nous ferons une escale en Guadeloupe et aussi en Martinique pour vous brosser un tableau de ce qui se passe dans le monde carnavalesque. Haïti, toujours pas un sou de décaissé pour les cailles dans le cadre du carnaval 2012. Ça va mal. Et puis en France, la campagne présidentielle 2012 connaît déjà certains dérapages. Le chef du Front National, Marine Le Pen, démentit sur la viande halal à Marseille, premier grand oral pour le candidat Sarkozy. Dans un courrier adressé au milieu culturel, le candidat socialiste pour sa part, François Hollande, assure vouloir assurer la pérennité du financement des industries culturelles. Et puis, nous allons essayer de vous donner un avant-goût et des coups de cœur et les rendez-vous de l'Alliance française de Toronto et de nos partenaires dans la région de Toronto. Si vous voulez nous joindre tout au long de l'émission, pot.pourri@sympatico.ca. 25 ans déjà, Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Alain Tavé, madame, monsieur, qui était à Toronto pas tellement longtemps, on vous dit bien le bonjour, et si vous voulez vous joindre à la communauté francophone dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie 2012 et aussi être partenaire de notre émission tout au long du mois de mars, eh ben vous êtes les bienvenus. Et je remercie beaucoup ici le chef et sommelier Jean-Pierre Chalet ainsi que toute son équipe qui sera des nôtres encore une fois pour parrainer cette activité. Et j'aimerais bien inviter peut-être un monsieur, une dame ou un auditeur pour se joindre à nous et aller visiter, déguster des bons petits plats, des mets vraiment extraordinaires de ce chef qui est lyonnais, hein, français. Ici, là-bas, partout, situé à 538 Manning Avenue, pas loin de Bathurst et Harvard. Et si vous voulez déguster des vrais croissants et des petits pains au chocolat, il y a une boulangerie qui s'appelle Le Matin, au 15 à 60 rue Queen Est. C'est super, super succulent, on dirait qu'on est en France. Alors, je vous invite à aller sur son site web aussi, ici, là-bas, partout, Jean-Pierre Enco. Et vous allez tout découvrir ou encore gagner des billets gratuits tout au long du mois de mars si vous participez à nos émissions ou envoyez-nous un message pot.pourri@simpatico.ca. Alors, chaque année en février, le mois de l'histoire des Noirs met en évidence les luttes et les triomphes de millions de Canadiens face à de terribles obstacles et leur contribution à la vie culturelle et politique du Canada. S'associant à ces célébrations, l'émission que vous écoutez en ce moment pour Pourrir rend hommage à sa façon à ces hommes, ces femmes, tout au long du mois. Et vous avez encore un dernier dimanche pour y participer. Alors, commentaires ou encore vos activités dans vos collectivités, vous nous envoyez un message immédiatement pot.pourrir@simpatico.ca.
RFI, face à radio partenaire dans le monde.
Dans mon cœur, posé sur le cœur de ma blonde. Dans mon cœur, je viens dans son bras tout bon. Dans mon cœur, la plus jolie chanson du monde, celle que ma blonde a dans son cœur. Dans son cœur, la mélodie pourrait s'envoler vers mon cœur, pour devenir la chanson folle de nos cœurs. Et nous inventons les paroles que l'on chante à deux sous le ciel bleu.
La la la, 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 la la.
Dans mon cœur, posé sur le cœur de ma belle dent. Mon cœur vient de glisser dans un bruit d'air dedans. Mon cœur, le bleu d'un vol de tourterelle, celui que ma belle dans son cœur. Dans son cœur, dont la mélodie vagabonde vers mon cœur, passé que faut-il à la ronde dans les cœurs de tous les amoureux du monde qui chantent joyeux sous le ciel bleu.
La la la, 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 la la.
Dans le cœur d'un vaisseau lancé dans l'espace, dans le cœur d'un char de feu qui se déplace, dans le cœur de l'infini qui nous dépasse, on ne quitte pas ça dans son cœur. Dans son cœur, une petite chansonnette que le cœur d'une blonde a mis dans sa tête. Le cœur des amants de toutes les planètes lui répond joyeux du fond des cieux.
La la la, 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 la la.
Et oui, mesdames, messieurs, une petite chanson dans le cadre de la Saint-Valentin, hein, qui se poursuit un peu partout à travers le monde. Eh bien, doit-on abolir le mot Dieu dans nos textes ou dans des salles de classe? J'aimerais ça avoir vos réactions là-dessus. Envoyez-nous un message à pot.pourrir@sympatico.ca. Cela fait la manchette même dans les journaux en France cette semaine. Et ça s'est passé au Québec récemment. Madame, monsieur, la ministre de l'Éducation a rabroué l'enseignant qui a censuré une chanson d'Édith Piaf. Et malgré cela, comme il a reçu l'appui de sa commission scolaire, le professeur de musique maintiendra sa décision de ne pas discuter en classe de la finale de la célèbre chanson « Dieu réunit ceux qui s'aiment » sous prétexte qu'il n'a pas le mandat d'aborder des thèmes religieux en classe. Vous voulez savoir votre opinion. pet.pourrir@sympatico.ca ou encore inscrivez-vous à notre page Facebook et la discussion est lancée, le débat est lancé. Allez sur facebook.com/popourrishow en un seul mot et bienvenue à nos nouveaux membres. Et dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, un communiqué de l'Alliance de la fonction publique du Canada qui reconnaît les contributions des travailleuses et des travailleurs noirs. Chaque année, pendant le mois de l'histoire des Noirs, on célèbre le patrimoine des Noirs et de la population d'ascendance africaine à la grandeur du Canada. On n'a pas toujours donné assez d'exemples de la contribution positive des Noirs à la société. En conséquence, leur histoire reste mal connue. Ce constat a mené à la désignation en 1926 d'une semaine en février pour souligner la contribution des Noirs à l'histoire des États-Unis au début des années 1970, on connaissait cette semaine comme la Black History Week. Mais en 1976, on a décidé de consacrer tout un mois à l'histoire des Noirs. Au Canada, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une motion présentée en décembre 1995 par Jean Augustin, première femme noire à y être élue, faisant de février le mois de l'histoire des Noirs au Canada. En février-mars 2008, c'était au tour du Sénat de reconnaître officiellement le mois de l'histoire des Noirs après un vote unanime en faveur de la motion présentée par le sénateur Donald Olivier, premier noir nommé au Sénat. Donc l'Alliance reconnaît les contributions des nombreux travailleurs noirs et commémore les lieux et les dates qui ont marqué l'histoire des Noirs au Canada. Nous célébrons leur succès et pendant ce mois, profitons-en pour s'intéresser à leur expérience et pour apprécier le rôle vital que cette communauté a joué dans l'histoire du Canada. L'Alliance encourage à ses membres à participer aux activités du mois de l'histoire des Noirs dans leur collectivité et au sein de leur syndicat. Intéressez-vous à la contribution des Noirs à l'histoire canadienne et syndicale.
Thank you.
Mathieu Dacosta est le premier Afro-Canadien à avoir été élu au Parlement. Vrai ou faux? Et oui, petit jeu questionnaire, vous pouvez nous téléphoner ou encore envoyer votre message. Le mois de l'histoire des Noirs se tient au mois de mars, vrai ou faux? Et quoi d'autre encore? Le gouvernement du Canada a désigné Mifflin Wista Gibbs, personnage historique du Canada. Vrai ou faux? Et en 1628, Olivier le Jeune fut le premier esclave africain à recevoir un nom au Canada. Vrai ou faux? Voilà. Si vous avez les bonnes réponses, pot.pourri@sympatico.ca. Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre magazine hebdomadaire, Pot Pourri, avec vous jusqu'à 13h, oui, ça fait 25 ans déjà. Noir et français, une longue histoire culturelle et sociale, un long combat aussi. Il faut remonter dans l'histoire pour comprendre comment des millions d'Africains, de Malgaches, d'Antillais, de Guyanais, de Réunionnais ont lutté pour devenir des Français à part entière. Un long combat pour l'égalité absent de nos livres d'histoire, une injustice réparée, heureusement, par un ouvrage et un documentaire qui font date, signé Pascal Blanchard. Parmi nos invités à cette édition un peu spéciale, Pascal Blanchard et François Dupère, co-auteur de l'ouvrage « La France noire » aux éditions La Découverte, et de nombreux extraits en avant-première du documentaire « Noir de France » de Pascal Blanchard et Juan Gela, diffusé les trois premiers dimanches de février 2012 sur France 5, la télévision de France 5 en France, bien sûr. À vous, Valérie Nivelon, avec le magazine La Marche du Monde.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Ils sont noirs, ils sont français, et depuis trois siècles, ils sont présents dans l'Hexagone. Grâce au livre La France noire, dirigé par Pascal Blanchard, aux éditions de La Découverte, c'est leur longue histoire que l'on nous raconte, j'allais dire enfin. Sauvages, indigènes, tirailleurs, nègres, noirs, ils en ont vu de toutes les couleurs. Et en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils écoutent avec espoir l'annonce d'élections législatives. 1945, la guerre est terminée. Alors que la France vibre au son du swing américain amené par les GI noirs, le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle annonce les premières élections législatives de l'après-guerre.
Élections. Tous les Français, toutes les Françaises, un an après la libération, choisissent entre les hommes, les partis, les programmes.
Extrait du documentaire Noir de France, bientôt sur France 5. Nous sommes en 1945, une année qui fait date, Pascal Blanchard, car cette année-là, 60 parlementaires d'outre-mer entrent au Parlement. Qui sont-ils? Comment s'appellent-ils?
À peu près de cette génération qui a émergé dans l'entre-deux-guerres. On retrouve les Césaires, par exemple, pour les Antilles, on retrouve les Sangors, on retrouve aussi des femmes, pour l'oublier, au Sénat, Mme Eboué. Donc on trouve toute une génération qui, en fait, ont fait leur place dans la génération de l'entre-deux-guerres. Certains avaient déjà accédé à des postes politiques. Vous voyez, députés, une quinzaine de l'entre-deux-guerres, toujours d'ailleurs au même poste quand ils étaient dans les ministères, c'est-à-dire sous-secrétaire d'État aux colonies, secrétaire d'État aux colonies, hein, toujours à peu près la même destinée. Donc c'est cette génération politique, intellectuelle et militante qui, d'une certaine manière, d'ailleurs sous les couleurs très différentes, certains sont apparentés communistes, Césaire, d'autres ont des couleurs très socialistes, d'autres se retrouvent dans des micro-partis fédérés des Outre-mer, certains sont même à droite, donc on a un panel extrêmement large, et on a une représentation très masculine, n'oublions pas, mais comme le reste de l'Assemblée, d'une élite intermédiaire qui a plutôt été une élite qui a été jusqu'à maintenant aussi proche dans certains territoires coloniaux du gouvernement en place, des gouvernements en place, et donc de l'État colonial. En même temps, on choisit cette vague qu'on peut appeler rose pour l'époque, socialiste, qui est porté aussi par ces combattants. Pour certains, ça fait aussi des combattants de la liberté pendant le conflit. Donc, à la fois, c'est des nouveaux venus, on va dire, pour l'opinion, parce qu'ils ne connaissent pas très très bien leur visage, ils ne passaient pas beaucoup dans les actualités, par exemple, cinématographiques de l'époque. Mais pour la classe politique, ce n'est pas des inconnus. C'est une génération politique qui a grandi dans les 25 ans qui ont précédé, qui arrive d'une certaine manière en tant que représentation et des territoires coloniaux africains et malgaches, et des territoires qu'on appelle les vieilles colonies, en sachant qu'ils vont très vite s'aiguiller, puisque cette nouvelle génération d'hommes politiques va aussi prendre une décision qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un gros hiatus entre les deux mondes noirs, de cette manière de l'Empire, puisque d'un côté, il va y avoir la départementalisation, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, qui vont donc être censés intégrer le giron métropolitain avec tous ses droits et ses devoirs, beaucoup de devoirs, une fois de plus, pas tous les droits, notamment sociaux, il prend beaucoup de temps à avoir tous les droits sociaux équivalents, et puis l'Afrique qui reste un territoire colonial, même s'il y a des élections, ces élections sont réservées à une infime minorité d'électeurs. Et la citoyenneté n'est pas un tout. Alors, certes, ces hommes et ces femmes vont abolir un certain nombre de choses qui étaient, comme le travail forcé, par exemple, tout à fait inacceptable au lendemain de la guerre, vont rétablir un certain nombre de droits, mais on est très très loin de trouver un équilibre entre les droits, je dirais, d'un citoyen d'Empire et d'un citoyen de métropole. Voilà cette cartographie de 1945.
L'Antillais, Aimé Césaire, vous l'avez cité, j'ajouterai l'Ivoirien Félix Oufette Boigny, Eboué bien sûr, et encore Jean-Félix Chikaya.
La génération de mon grand-père qui rentre donc au Palais Bourbon se disent, tous ces discours, tous les soldats avec qui on a fait la guerre, ne peuvent plus avoir un regard colonial et inégalitaire à notre égard.
Jean-Claude Ticalia, porte-parole de l'association Devoir de mémoire. Je me tourne vers vous, François Durper. Parlons des revendications, justement, de ces parlementaires qui sont déjà engagés dans une carrière politique. Mais la différence en 45, c'est qu'ils deviennent plus nombreux. Hein. Ils sont quand même 60 à l'Assemblée nationale. Ils se sont battus sous le drapeau français. Qu'attendent-ils en retour?
Alors, c'est très intéressant ce que disait Pascal, parce qu'on voit que rien n'a été donné. Fanon disait en 53, la République essaye systématiquement de faire croire qu'elle donne. Et c'est une histoire de conquête, on le constate. Césaire dit, mais voilà, on a la départementalisation. Mais il n'y a rien comme droit concret, comme égalité concrète. Donc c'est cette conquête. Et puis la deuxième chose est très importante, et là c'est la date de la rupture de Césaire à Thorez, au Parti communiste, c'est qu'ils s'aperçoivent à un moment donné que dans les partis politiques français, eh bien, il n'existe pas. Césaire dit, j'ai tenté d'être un militant communiste, j'ai tout lu, j'ai même lu Staline, j'ai lu Lénine, mais où est ma Martinique dans le programme du Parti communiste, dans l'idéologie communiste? Et c'est la création du PPM en 1957.
Le Parti populaire martiniquais de Césaire, en ce qui concerne justement cette lutte contre l'inégalité, donc pour l'égalité des droits, il y a aussi cette lutte contre la discrimination, et là c'est l'Ivoirien, Houphouët Boigny, qui porte ce projet de loi contre les lois discriminatoires.
Oui, alors la terminologie est anachronique, hein, c'est là où on flaque nos thématiques actuelles de
alors,
discrimination.
Alors, en
gros, c'est pas une lutte contre la discrimination, c'est une lutte pour l'égalité. Pour l'égalité des droits, parce que tous ces dirigeants qui sont formés dans l'école française et pour certains dans l'université française, et on a cité tout à l'heure Césaire, Léopold Sédar Senghor, eh bien connaissent tout à fait les codes, la manière de fonctionner de leurs compatriotes. Et donc ils utilisent, alors non pas, ils n'ont pas intériorisé, ils savent comment utiliser ces codes pour faire valoir l'égalité des droits. Mais en même temps, ils savent bien qu'il faut pousser. Quand Césaire est à l'Assemblée, on lui dit mais vous bafouez la France. Que seriez-vous sans la France? Et Césaire répond, eh bien, quelqu'un qu'on n'aurait pas privé de sa liberté. Quelqu'un qu'on n'aurait pas réduit à l'esclavage. Oui, à aucun moment chez Césaire, il y a cette volonté de compromission. Il va très très loin, il pousse très très loin cette égalité des droits.
Alors, Pascal Langeard, en ce qui concerne l'accès au droit de vote, encore un Sénégalais, c'est Lamine Guéré. Lui, il se bat justement pour qu'il y ait une extension de la citoyenneté, que réellement ce droit de vote soit étendu. Mais en même temps, il ne l'obtient pas complètement.
Mais n'oublions pas qu'on est juste en deux mots pour que nos auditeurs se rappellent le contexte. Au même moment, entre 45 et 47, il y a la répression en Algérie, il y a la guerre d'Indochine qui démarre déjà, et il y a la répression à Madagascar, de 47. Il faut quand même imaginer le contexte. Si on va trop loin dans les revendications, on nous envoie les tirailleurs sénégalais. C'est aussi ça, le même moment. Hein. Donc il y a un fil extrêmement ténu où on réclame plus d'égalité, c'est en gros de supprimer l'inacceptable, les codes de l'indigénat, le travail forcé, l'absence de droit de vote. On obtient en partie des choses, jamais jusqu'au bout, on obtient en fin de compte la suppression de ce qui était le plus inacceptable, mais on n'obtient pas encore ce qui est le minima, c'est-à-dire l'égalité de fait. Leur exigence est très faible. Ils ont très peu d'exigences en fait. Ils disent simplement, puisque nous sommes comme vous, soyons réellement comme vous. Voilà à peu près le débat. Et on leur répond, oh là là, un peu comme Mandel en 39, l'égalité, oui, un jour, peut-être demain. Et c'est tout cet enjeu dans un contexte d'une violence incroyable qu'on oublie un peu aujourd'hui, la répression coloniale domine dans l'actualité, où en plus certains sont, comme vient de le dire François très très bien, sont taxés de presque d'être des extrémistes. La France a tant donné depuis si longtemps, et d'un seul coup vous voudriez leur demander tellement qu'on n'est pas capable de vous le fournir dans cette reconstruction nationale. Soyez patients messieurs. Pour certains, plus de 100 ans qu'ils sont patients, d'autres près de 2 siècles et demi pour les Antillais. Et c'est cette situation qui est très paradoxale, où ces élites politiques ont le sentiment, dès qu'elles réclament, de ne pas être écoutées par leurs pairs en fait, par ceux qui sont dans leur propre parti politique, sans même parler. Alors là, c'est quoi, c'est des intérêts, des fois très locaux. Parce qu'on sait bien que les élections ont aussi été, là c'est valable dans tout l'Empire, hein, aussi bien en Algérie que dans l'Afrique noire qu'aux Antilles, très souvent aussi manipulées par le pouvoir politique. Donc il y a un jeu qui est complexe, c'est que tout le monde ne joue pas forcément dans la même cour, entre les intérêts particuliers, les intérêts collectifs, et puis d'une certaine manière l'héritage des combats de la génération précédente. Donc c'est tout ça qui va se passer en très peu de temps. Il y a moins d'un an et demi entre, d'une certaine manière, les événements de Sétif, la grande révolte qui se sera battée dans le sang, que tout le monde a regardé quand même, tout le monde a bien compris que quand on bougeait un peu trop fort, l'armée française réagissait, et par exemple la départementalisation. Donc on voit bien qu'en très peu de temps, tous ces gens-là, avant que la boîte de Pandore quelque part se referme, pendant une bonne dizaine d'années, vont avoir lieu, et donc il va y avoir un entrejeu, un combat politique, des alliances presque contre nature, politiquement, pour essayer d'obtenir le maximum de cette génération politique naissante.
Entre 45 donc et 1960, et avec les indépendances, avec le vent des indépendances qui souffle sur l'Afrique francophone, les élites politiques noires vont quitter l'Empire pour construire leur pays, tandis que l'immigration se développe. Et en 67, on l'apprend en regardant votre film, en lisant votre livre, Pascal Blanchard, en 67, ils sont 60 000 en France. Écoutez le sociologue Marsal.
On ne peut pas dire qu'il y ait eu une politique d'accueil, quoi. Non, non. Parce que de toute façon, ça a arrangé tout le monde. Ça a arrangé et l'État français et le gouvernement français, qui ne voyait l'immigré qu'à travers sa force économique. Et ça a arrangé aussi le migrant africain, qui pensait qu'il allait rester 5 ans maximum, et qu'il allait rentrer définitivement chez nous. Ça a arrangé tout le monde.
Pascal Blanchard, donc, au moment des indépendances, les Noirs des anciennes colonies donc, deviennent des nationaux chez eux. Mais il y a forcément parmi eux des gens qui veulent rester français. Est-ce qu'il est possible à ce moment-là de rester français?
De redevenir français. Il suffisait de faire une demande. Ce qui est assez incroyable, ce que tout le monde a à peu près oublié, c'était extrêmement simple de devenir, comme on est en train de le dire là, français, puisqu'on était en fait français quelques années avant. Donc c'était une simple formalité, qui était assez rapide d'ailleurs. En quelques jours, vous obteniez la régularisation de votre citoyenneté. Puisque vous étiez né français, vos parents étaient français, vous viviez en France en tant que travailleur, donc vous réclamiez simplement. C'était une simple démarche administrative et qui a duré très très longtemps. Beaucoup d'étudiants dans les années 80 avaient complètement oublié qu'ils pouvaient de manière extrêmement simple récupérer leur citoyenneté française quand ils étaient nés français en fait en Afrique. C'était une simple formalité à l'époque. Ça a un peu changé par la suite. Parce qu'en plus, même pour la France, il y avait une certaine forme de proximité avec ces migrants. Et en même temps, on était persuadé, comme dit très très bien Marsal, qu'ils n'allaient pas rester. Et d'ailleurs, personne ne pensait qu'ils allaient rester.
Eux-mêmes pensaient qu'ils ne resteraient pas non plus.
Ces populations viennent en France pour acquérir d'abord un statut social et un emploi. Souvent pour faire vivre une famille ou un village. Ok, le modèle est simple. Dans ces cas-là, vous ne pensez pas y passer votre vie. Vous pensez faire 4, 5, 6, 7 ans, vous êtes en plein dans les 30 glorieuses, tout va bien, il n'y a pas de chômage en France, il n'y a pas encore eu choc pétrolier. On pense qu'on va s'enrichir, au sens du travailleur qui va permettre à sa famille de rester au pays de grandir, et donc il va revenir, parce qu'il va donc profiter de ce sacrifice d'avoir été en métropole travailler. C'est donc un peu comme avaient fait leurs pères dans les générations précédentes. Personne n'imagine ni l'État, ni ses migrants, ni les structures en charge de les accueillir, qu'ils vont rester.
Selon un sondage publié ce matin par le quotidien de Paris, 57% des Français sont favorables à une diminution de la main-d'œuvre étrangère. Apparemment, donc, les récentes mesures annoncées par Lionel Stolleru, le secrétaire d'État chargé des travailleurs immigrés, reçoivent l'appui de l'opinion publique.
Alors que les choses soient claires, on ne met personne à la porte, mais on ne laisse plus la porte grande ouverte. C'est exact.
Alors sur TF1, au JT de 20h, le présentateur annonce que les Français seraient favorables au durcissement des lois qui encadrent l'immigration. Nous sommes en 1977, quelques années après le choc pétrolier. Pascal Blanchard, c'est un tournant dans l'histoire de l'immigration en France?
Oui, non. C'est un tournant parce qu'on a la télévision qui nous le renvoie. On a ce sentiment, à ce moment-là, fermeture des frontières, regroupement familial, bientôt les 10 000 francs pour rentrer au pays, que tout ça est tout neuf. En même temps, dans les années 30, on a eu le même discours. Hein. Rappelez-vous les lois 31-32, où on ferme les frontières, on expulse les gens. Rappelez-vous aussi qu'on a bien expulsé aussi les combattants, qui sont aussi des travailleurs, on l'oublie un tout petit peu quand même, en 45, on les a très vite renvoyés chez eux. On peut dire que tous les 15-20 ans, il y a une forme de cycle comme ça, mais ça c'est sur le temps long. Hein. Déjà Napoléon Bonaparte avait expulsé ses Noirs. À un moment, on ouvre les frontières, puis on les ferme. On ouvre les frontières, puis on les ferme. Et là, ça devient très visible. Pourquoi? Parce que ça devient une politique d'État, structurée, organisée, avec un ministre qui vient à la télévision, qui l'explique aux Français, qui a vu la préparation, les sondages, l'opinion serait en phase avec ce processus. Donc tout ça, d'un seul coup, donne le sentiment d'être très neuf. Simplement, ça prend une vision, une médiatisation, une dynamique qui va quelque part en plus déclencher exactement l'inverse de ce qu'on imaginait.
Mais il y a quand même des arguments économiques très précis. On est juste après sur le pétrole de 63.
Mais comme par hasard, ça tombe sur les populations les plus fragiles. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire il y a une problématique de redistribution du travail global, et il y a une réflexion, parce qu'en même temps, on a toujours besoin des travailleurs immigrés à ce moment-là. Hein. Dans la réalité, c'est qu'il faut bien continuer à construire des ponts, vider les poubelles, avoir des balayeurs dans les rues. Et donc, on va commencer à chercher ailleurs, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. On va essayer d'éviter qu'ils viennent d'Afrique noire et du Maghreb, c'est quand même problématique, on va aller les chercher aux Antilles. On continue en fait à avoir une politique coloniale. Une population remplace l'autre. Et d'une certaine manière, on tient un peu compte de l'opinion, n'oublions pas que ces dates-là, c'est aussi l'émergence du Front National.
Les Antillais sont français, hein, à ce moment-là.
Oui, mais dans le regard des Français de la rue de métropole,
un noir est un noir.
En tout cas, les noirs s'organisent et la lutte commence.
Pour nous, ne pas payer le loyer, c'était prendre des risques énormes. C'était risquer d'être expulsé d'abord du foyer, c'était avoir décidé à laisser salaire, c'était avoir des expulsions du territoire, c'était être pisté par des RG, et tout ça, on l'a fini.
Hassanba est actuellement juriste, mais il était leader de la grève des foyers. Il avait tenu à ce qu'il témoigne dans votre film Pascal Blanchard. Cette lutte sociale aura peut-être un premier aboutissement avec l'arrivée de la gauche, donc nous sommes en 81, et là il va y avoir cette proposition de régularisation des sans-papiers. Est-ce que c'est vraiment une première victoire pour la lutte sociale des Noirs en France?
C'en est une, c'en est une. C'est d'abord un processus assez naturel avec l'arrivée de la gauche. C'était une promesse de la gauche depuis extrêmement longtemps et on pense qu'avec ça, on va régler définitivement un problème, repartir à zéro et pouvoir beaucoup mieux maîtriser les flux migratoires ensuite. Mais ce n'est pas la principale revendication des mouvements dans les foyers, par exemple. Eux, ils se battaient pour simplement être acceptés comme des locataires normaux avec des loyers normaux qui ont une vie normale, à qui on n'interdit pas de vivre normalement, de sortir, de recevoir des amis dans le cadre des foyers. Vous imaginez le niveau du combat social quand même. Ils se battent souvent très seuls. Hein, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, ils sont énormément soutenus par les autres syndicats avant, par les partis politiques. Pour la gauche, c'est autre chose. C'est une manière de dire, bon, on va tirer un trait sur les 20 dernières années, de politiques un peu dans tous les sens qui ont été menées, on va régulariser les gens, on va repartir à zéro, remettre les compteurs à zéro, pour avoir une nouvelle politique qui va se mettre en œuvre. Sur le fond, ça va donner une visibilité. Je pense que ça qui est le plus important, là, c'est qu'on va découvrir qu'il y a des centaines de milliers de personnes en France qui sont sans statut, sans papier, qui travaillent, qui font vivre l'économie. Alors certes, c'est la queue de comète des 30 glorieuses, mais on les voit bien dans nos rues, parce que tous les gens ne les voient pas, mais si tu veux sortir à 6h du matin pour voir les éboueurs, à 7h du matin pour voir les balayeurs, et à 8h du matin, aller dans les usines, regardez qui sont sur les chaînes de rail. C'est très très clair. Et dans les grandes villes, ça y est, de France. C'est valable ce que je viens de dire, à Marseille, à Lyon, à Lille, à Paris, à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux. C'est pas neuf. Ils sont présents dans le monde ouvrier, ils sont présents dans les petits travaux. Et puis, on oublie d'une chose, ce qui souvent a été repris dans le cinéma antillais, par exemple en France, tous les petits travaux des femmes maintenant ont émergé. Car par le Bumidome, la moitié des gens du Bumidome sont des femmes. On les voit dans nos hôpitaux, on les voit dans les municipalités, on les voit dans les services sociaux, on les voit dans tous les services d'aide à la personne, comme on dirait aujourd'hui. Et vraiment, ils sont les petits serviteurs d'une France qui ne se voit pas comme ça. Et d'une certaine manière, c'est eux, quelque part, que la loi, avec l'arrivée des socialistes, va normaliser. Parce qu'on ne peut pas se passer de cette main-d'œuvre. Et que les réintégrer dans la citoyenneté, c'est les réintégrer dans la lutte sociale plus classique, dans la classe ouvrière, pour faire simple, c'est les re-syndicaliser, non pas dans les syndicats, quelque part, très propres, sur des combats de foyers et compagnie, mais dans les syndicats plus classiques, c'est normaliser cette présence qui échappe aussi à la gauche. C'est ça qu'il faut regarder aussi à ce moment-là. Pas simplement le côté générosité, non, c'est la base de la politique de la gauche qui arrive, qui pense qu'à travers ça, elle va reprendre le contrôle d'une immigration qui, pour elle aussi, lui a échappé. N'oublions pas que les communistes sont au gouvernement à ce moment-là, et n'ont pas forcément le même point de vue que les socialistes sur le traitement de la question de l'immigration, notamment dans les classes populaires, on l'a vu avec l'histoire des foyers.
Écoutons également le point de vue de l'écrivain Gaston Kelman sur cette question.
Les rendez-vous ont été manqués à cause de cette difficulté de la gauche à voir le migrant comme quelqu'un qu'il faut aider, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un d'impossiblement autre chose que subalterne. On se retrouve dans ce qu'on appelle le syndrome de l'éboueur. Le syndrome de l'éboueur, c'est-à-dire vous êtes arrivé en France, la vision qu'on a sur vous, c'est celle du type derrière un camion d'éboueur. Et puis on sort difficilement de cela à vous percevoir comme un cadre. Et l'un des chapitres de mon premier livre, c'est « Je suis noir et je suis cadre ». Ne le dis pas à mon voisin, il me prend pour un éboueur.
Dans le documentaire Noir de France, la question du regard sur l'autre, la question des mentalités est abordée par Pascal Blanchard, comme en témoigne Claudicia, star en Afrique francophone, producteur de couleurs tropicales sur notre chaîne RFI. Soi-même, tu le sais, et actuellement délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer.
J'ai 16 ans, et lors de ce dîner, je parle de tout ça, de tout ce que moi je suis en train de vivre, de tout ce que nous faisons, nous jeunes. Je parle de gens qui appartiennent à la génération de mes parents. Je parle de Sékou Touré, je parle de Césaire, je parle de Fanon. Et je leur dis, mais voilà, l'esclavage, ce que ça a été. Et j'ai des membres de ma famille qui me disent, mais non, mais pas avoir ces choses comme ça. Et je comprends qu'il y a un véritable fossé entre cette génération et ma génération. Ma mère ne disait rien et c'est une tante qui tout d'un coup se met à dire « Mais laissez-le parler, il a raison, nous n'avons jamais osé dire. on n'a jamais osé dire non, on n'a jamais osé se révolter alors que nous savions que ce que nous vivons n'était pas normal.
Et comment la jeune génération vit-elle le regard des blancs, justement, sur elle-même?
Cette question, tu viens d'où? Mais on l'a trop posée. Et c'est ça qui m'a fait me rendre compte que le fait que je sois française n'était pas évident pour tout le monde. On a commencé à me demander d'où je venais, mais l'air de dire, tu viens de très 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 loin. Et en fait, au début, je répondais naïvement, je disais, bah, je viens de la Courneuve, mais sinon, tu viens d'où et tout. Et c'était, bah, je viens de Paris, en fait, je suis née à Paris, en quatrième et tout ça. Et je comprenais en fait que les gens s'attendaient à ce que je réponde, que je venais, je sais pas, de la savane, de la jungle, je ne sais pas. Mais du coup, c'est là-dessus en fait que je me suis rendu compte que dans le regard des gens, il fallait que je justifie le fait que je sois noire.
Elle est noire de France, Rokhaya Diallo, de l'association antisexiste Mixité. Alors moi, j'ai le sentiment qu'il y a, une sorte de fossé incroyable entre la façon dont les noirs de France se vivent, c'est-à-dire, on l'a entendu, comme des Français, comme des républicains, comme des patriotes. On l'a vu dans l'histoire, ils se sont engagés pour défendre la patrie. Donc comme des Français, hein, qui peuvent être discriminés malgré tout, mais qui se sentent d'abord Français, et puis la façon dont les autres, les Français, les Blancs les regardent, ou encore les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, les regardent. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on est encore toujours dans cette incompréhension, à votre sens, François Durper?
Oui, Rokhaya, qu'on a entendu à l'instant, qui dit, ben voilà, tu viens d'où? Ben, je suis de Paris, mais d'où avant? Ben oui, j'étais pas né. Bon, et puis, il y a la deuxième chose, c'est la question que pose Rokhaya Diallo, de, là on parle de l'histoire, de l'identité noire, mais c'est la question de l'avenir de l'identité noire. Parce que être noir, c'est pas évident, c'est une question sociale. Est-ce que être noir a un avenir en France? C'est une question. Nicolas Sarkozy, quand il est président, le premier jour de sa présidence, il dit une phrase qu'il répète 3 fois dans la journée à la jeunesse de France. Il dit pas que c'est raciste ou etc. Il dit que c'est faux. Il dit « Aimez la France car vous n'avez qu'un pays ». Eh bien, cette identité noire précisément, et c'est ce que disait Césaire, en ce qu'elle a d'universel, elle jette un pont vers le 21e siècle, c'est-à-dire vers un monde, non pas de post-identité ou de post-racial, comme on dirait aux États-Unis, mais de multi- et de trans-identité.
Et en tout cas, au 21e siècle, différentes associations de défense, justement, des Noirs, des Antillais, en tout cas, des Noirs de France, c'est très souvent la représentation politique ou médiatique. Et il faut attendre 2004, d'ailleurs, pour qu'une femme noire présente le JT national, Théodore Touloir.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à France 3. On débute cette édition avec la mort de Marlon Brando.
On a fallu 2 ans hein, de rencontres avec les gens de France 3, la direction de la rédaction, etc. À taper à toutes les portes, j'ai revu des gens 20 fois, 30 fois, je me suis jetée des tas de fois, j'ai entendu des choses abracadabrantesques. Mais moi je venais voir les gens, et justement on me disait ça, on me disait oui, mais il y a le comité, non, bon, effectivement c'est un problème, attends. Moi je viens pas, je suis pas une noire que vous allez mettre là parce qu'elle est noire, je viens parce que voilà, j'ai fait ce parcours, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je voudrais faire. Je voulais être considérée comme journaliste, je voulais pas être considérée, jusqu'à maintenant, je voulais pas être considérée comme une journaliste noire. Être considérée comme une noire qui fait du journalisme. Ça fait la même chose.
Mais en politique, c'est toujours mort ne plane. Notre historien Lucien Boccolo, qui présente Mémoire d'un continent sur RFI, s'en étrangle.
Enfin, il y a un temps, les Noirs étaient au sommet de l'État. Gaston Monnerville a été président du Sénat pendant une longue période. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, ben vous pouvez regarder, il n'y a plus de Noirs.
Depuis presque 30 ans aujourd'hui, nous assistons à quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est, je dirais, l'ethnicisation de la société française. On ne voit plus les gens comme on le voyait autrefois. Avant, on disait, il y a les prolos, il y a les bourgeois, il y a les petits bourgeois et les autres. À la rigueur, il y a les athées et les croyants. Tout cela est en train de disparaître aujourd'hui. Pour qu'on vous dise, il y a les noirs et les blancs. Il y a les beurs et les autres, il y a les musulmans, etc. Et donc la reproduction de ces identités, qui sont en fait collées sur les gens, fait que les gens, hélas, commencent quelquefois aussi à s'approprier de cette identité.
Pascal Blanchard, et le temps de la confusion est venu, proposer aujourd'hui
cette histoire, cette longue histoire en Nord de France, c'est permettre aux Français, à tous les Français, de se rappeler qu'il y a eu un temps, justement, où noir et blanc ont cohabité. Vous citiez tout à l'heure la baguette de pain dans la boulangerie dans les années 30, achetée par un jeune noir ou une jeune noire et personne ne se retournait sur lui ou sur elle. L'histoire peut nous aider à vivre ensemble aujourd'hui, à mieux comprendre cette diversité française.
Sans aucune utopie, oui. Je veux dire même encore plus froidement, vous ne savez pas simplement rappeler qu'on a pu vivre ensemble. D'abord, c'est rappeler qu'on a vécu ensemble. Et que ça fait plus de 3 siècles que ça dure, qu'il y a aujourd'hui un moment de crispation qui est lié aussi et qui ne se comprend pas, l'histoire. C'est à force de rejeter l'autre, pas l'autre, va vers d'autres identités. Mais c'est aussi peut-être accepter qu'ils ont pu être noirs et français pendant 3 siècles. Et ça, c'est nouveau, parce que dans un discours politique, ce n'est pas porté par le discours politique. Juste une toute petite anecdote. L'autre jour, nous étions avec le staff d'un des candidats à la présidentielle. Et nous parlions de cette difficulté, le vieux langage des partis politiques, à faire émerger la diversité dans les partis politiques. Et je leur disais, mais rappelez-vous, il y a plus de 107 ans, le vice-président de l'Assemblée nationale était porté par un homme noir qui s'appelait M. Gréville Gréache et qui venait de Guadeloupe. Vous regardez tous, j'ai bien vu dans le regard qu'aucun ne savait ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de m'expliquer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'est pas possible de faire des choses, alors qu'au début du XXe siècle, à l'époque coloniale, alors qu'il y avait encore le temps des eaux humains et que tout le monde n'était pas citoyen, un homme gagnait au Parlement sa place de vice-président et était capable de dire aux autres, lisez-moi, est-ce que vous vous rendez compte de notre décalage? Nous sommes en reflux. Nous sommes en train de repartir en arrière. C'est ça qui est dangereux. Et en plus, nous partons en arrière alors que ils sont 5, 6, 7, peut-être 8 millions entre les métis et les hommes et les femmes noires dans ce pays, à vivre dans ce pays, à être français. Est-ce que vous vous rendez compte de ce décalage? Plus ils sont nombreux, moins ils sont français. C'est tout le paradoxe de ce début du XXIe siècle. Et c'est pour ça qu'il faut donc le raconter par l'histoire, tout simplement.
Merci, messieurs. La longue histoire des Nord de France est à suivre dans la marche du monde. La suite la semaine prochaine avec nos invités Françoise Vergès et Pape Ndiaye, toujours avec des extraits du documentaire signé Pascal Blanchard et Juan Vela. Vous avez compris, nous recommandons vivement cette émission à tous les candidats à la présidentielle. Et français, c'est une édition de la Marche du Monde réalisée comme chaque semaine par Isabelle Godineau. Pour réécouter l'émission et réagir, je vous conseille de vous connecter au site de la Marche du Monde sur RFI.fr. Nous vous souhaitons un excellent week-end à l'écoute de RFI.
Noir et français, une longue histoire culturelle et sociale, un long combat pour l'égalité. Très belle émission et un grand merci à Valérie Rivelon et tous nos partenaires, nos amis que nous avons rencontrés récemment à Radio France Internationale. Si vous avez des commentaires ou vous voulez passer des suggestions ou vous avez des choses à partager, eh ben vous nous appelez ou encore vous nous envoyez un petit message à pot.courrier@sympatico.ca. Dans un instant, le point de l'actualité africaine et internationale.
Thank you. CRUC 89.5 FM. Toronto.
RFI Afrique.
Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité ce matin. Les nouvelles menaces des Chebabs. Les insurgés islamistes ont revendiqué l'attaque du QG de la police à Mogadiscio qui a fait 2 blessés vendredi. Et les insurgés préviennent, cette explosion n'est que le début d'une série à venir. L'opposition djiboutienne réunie hier en meeting, elle a commémoré le premier anniversaire de la grande manifestation contre le régime d'Ismaël Omar Guelleh, manifestation qui avait été réprimée. Inacceptable, voilà comment le représentant de l'Union européenne au Burundi réagit aux exécutions extrajudiciaires dans le pays. Il assure toutefois que l'UE poursuivra son aide au Burundi, aide qui se chiffre chaque année à plus de 80 millions d'euros. Et puis de nouveaux affrontements hier entre des jeunes et la police à Dakar. L'opposition a tenté de manifester malgré l'interdiction des autorités. Une dizaine de personnes a été blessée. Il y a 6 mois, les islamistes Chebab étaient chassés de Mogadiscio par les troupes somaliennes et leurs alliés de la force de l'Union africaine. Eh bien, 6 mois plus tard, la menace est toujours présente. Hier, les insurgés ont revendiqué une attaque à la voiture piégée dans un complexe de la police à Mogadiscio. Une attaque parmi beaucoup d'autres ces derniers mois. Cyril Ben Simon.
Explosion de véhicules piégés, attentats kamikazes. Depuis leur retrait forcé de Mogadiscio il y a 6 mois, les combattants d'Al-Shabaab continuent d'ensanglanter les rues de la capitale. Leurs attaques ciblent les représentants du gouvernement de transition et les troupes de l'Union africaine, mais elles n'épargnent pas la population. La semaine dernière, au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans un café. En octobre, l'explosion d'un camion piégé avait fait un carnage. Au moins 82 victimes. Les menaces de ces insurgés islamistes, désormais intégrés à Al-Qaïda, doivent donc être prises au sérieux. Malgré l'étau militaire qui les enserre, les Chebabs contrôlent encore une large partie du territoire somalien. L'essentiel du centre et du sud du pays est toujours entre leurs mains. Cela dit, la pression combinée des soldats de la mission de l'UA et du gouvernement sur le front nord, de l'armée kenyane au sud et éthiopienne à l'ouest les a affaiblis. Si elles sont encore loin d'avoir porté un coup fatal à l'insurrection, toutes ces forces bénéficient désormais d'une forte implication britannique. Sur ce dossier, le chef de la diplomatie, William Hague, s'est rendu à Mogadiscio début février et actuellement le Royaume-Uni pousse au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que les effectifs de l'Union africaine soient accrus. Londres accueillera par ailleurs la semaine prochaine une conférence internationale sur la Somalie. Pour les Chebabs, il s'agit là d'une tentative de colonisation.
Cyril Ben Simon. Par ailleurs, le Kenya a accepté hier de traduire en justice 4 pirates somaliens présumés. C'est ce qu'indiquent plusieurs sources officielles à Mombasa. Les 4 hommes avaient été capturés par un navire de guerre danois dans l'océan Indien. C'est au début du mois de janvier. Il doit être jugé demain. Une vedette rapide battant pavillon mauricien arrêtée alors qu'elle se trouvait dans les eaux comoriennes. Plusieurs personnes armées se trouvaient à bord. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais on parle de pirates. On retrouve notre correspondant, Armel Abdelanguin.
Cette affaire constitue le baptême de feu de la toute jeune unité de garde-côte comorien. À bord d'une embarcation civile, les hommes de la marine ont pourchassé ce bateau inconnu qui a pris la fuite après être repéré. Selon le port de Moroni, cette vedette rapide aurait refusé de s'identifier alors qu'elle se trouvait dans les eaux comoriennes. Après que l'équipage s'est rendu sans opposition, la fouille du bateau a découvert des armes à bord. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que sur les 10 personnes interpellées, il y a des Tanzaniens, des Kenyans et un Bulgare. Ces hommes auraient indiqué qu'ils sont dans la zone pour sécuriser un navire de marchandises. Mais cet argument ne convient personne, surtout qu'aucune indication n'est donnée sur ce bateau censé être escorté. En attendant, ils sont accusés de piraterie et comme nous sommes aux Comores, les soupçons de mercenariat ne sont pas écartés. Des sources militaires indiquent que l'enquête est compliquée car il y a beaucoup de ramifications. Cette vedette battant en pavillon mauricien est enregistrée en Tanzanie mais exerce en Mombasa. Ahmed Abdelhamdini, Moroni, RFI.
Il y a un an et un jour, l'opposition djiboutienne a organisé une grande manifestation contre le régime d'Ismaël Omar Guelleh. Les adversaires du pouvoir qui espéraient alors un changement dans la foulée du printemps arabe. Seulement voilà, la mobilisation avait alors été réprimée et depuis le président a été réélu. Hier, les opposants de l'Alliance républicaine pour le développement ont tenu à commémorer la manifestation. Ils continuent de croire à une évolution des mentalités dans le pays. Ils étaient réunis hier en meeting. Ahmed Youssouf Oumed est le président de la RD.
Ce meeting, c'était un rappel de la manifestation monstre qui a eu lieu l'année dernière ici contre le pouvoir et sa politique. Depuis un an, c'est le premier meeting et il n'y a pas eu de changement. Ici, nous continuons de protester contre l'abus du pouvoir. Il y a un temps d'accalmie et d'impuissance, mais on repart. Et maintenant, de nouveau, il faut que toute la population soit unifiée et souffrant de la même politique dictatoriale, se mettent ensemble pour manifester comme ça arrive déjà à travers le monde et notamment dans les pays arabes qui ne sont pas loin de chez nous. Je crois que la prise de conscience est là, il s'agit de les mobiliser et d'agir ensemble. C'est dans la rue que ça doit se passer.
Le président de l'ARD, Ahmed Youssouf Oumed, au micro de Charlotte Hidrak. RFI, 5h35 à Bujumbura. Le représentant de l'Union européenne au Burundi s'inquiète des violations des droits de l'homme et de la corruption au Burundi. Il s'est exprimé ces derniers jours devant la presse. Compte rendu d'Ezra Nikumana.
En moins d'une semaine, le chef de la délégation de l'Union européenne au Burundi, très discret jusqu'ici, a sorti un communiqué, accordé des interviews à la presse, dès vendredi, pour sortir d'un dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement burundais. Stéphane de Locker a été très clair au sujet, par exemple, de nombreux cas d'exécution préjudiciaire et de torture relevés dans ce pays.
C'est quelque chose d'inacceptable. On ne tue pas les gens et on ne les torture pas.
Mais l'Union européenne, qui donne chaque année entre 80 et 100 millions d'euros au Burundi, une aide vitale au sens premier du terme pour ce pays l'un des plus pauvres du monde, assure qu'elle va continuer à soutenir un État qu'elle qualifie de fragile.
Pour nous, l'Union européenne, c'est une simplicité évidente. En dépit des difficultés qu'il y a, le Burundi restera une priorité. Nous ne pouvons pas diminuer le soutien à ce pays.
Le pouvoir burundais a applaudi les deux mains sur discours tout de suite. L'opposition, elle, s'est dit satisfaite hier par ses critiques, mais elle demande à l'Union européenne de ne pas accorder au gouvernement burundais d'aide budgétaire. Léonce Kinzakumana, président de la DC Ituriri, qui revoque les principaux partis d'opposition.
Nous ne sommes pas contre l'aide accordée au Burundi, mais il ne faut pas que cette aide passe par un gouvernement qui se comporte comme une clique de ces individus au pouvoir qui se partagent l'objectif en l'aide.
C'est ça, c'est comment, là, vous trouverez ici.
Comme depuis plusieurs jours à Dakar, des militants de l'opposition ont tenté hier d'accéder à la place de l'Indépendance pour manifester, mais encore une fois, la police avait bloqué tous les accès et des affrontements se sont produits entre des jeunes et les forces de l'ordre, bilan une dizaine de personnes blessées. Les gaz lacrymogènes qui n'ont pas épargné l'hôtel de ville de Dakar. Selon le maire de l'opposition, Khalifa Sall, une vingtaine de mariages étaient prévus, ils ont été perturbés. Et puis, sept jeunes du mouvement Y en a marre, qui avaient été arrêtés jeudi dans la capitale sénégalaise, ont été inculpés de participation à une manifestation non autorisée. Ils seront jugés mercredi prochain. 13 autres sont toujours entre les mains de la police. C'est une situation que déplore la Fédération internationale des droits de l'homme. Florent Gel est chargé de l'Afrique à la FIDH.
Suite à la manifestation de jeudi et de vendredi, oui, une vingtaine de membres de Yanama ont été arrêtés. Si les principaux leaders ont été libérés aujourd'hui, ils demeurent poursuivis pour manifestation illégale. Et une dizaine d'autres membres de ce mouvement de jeunes sont toujours en détention et eux auraient subi des mauvais traitements. On aurait notamment essayé de leur faire dire « vive WAD ». Ils auraient refusé et auraient été du coup particulièrement maltraités. Il faut absolument que ça cesse et c'est le message que l'on a envoyé aux autorités sénégalaises pour que ces autorités publiques prennent leurs responsabilités et arrêtent ces violences, laissent les gens manifester conformément à l'article 61 du code électoral.
Et vous vous inquiétez également de la présence de civils armés qui pourchassent les manifestants.
Des hommes en cagoulé dans des 4x4 qui poursuivent des manifestants avec des armes. Donc ça, c'est effectivement très très inquiétant. Ça veut dire qu'on est dans une escalade de la violence et surtout dans une utilisation de la violence qui n'est plus le monopole de l'État. Les autorités doivent absolument arrêter cette escalade, sinon on risque un bain de fond.
Florent Gel, chargé de l'Afrique à la FIDH. Et puis retour sur les événements de vendredi, quand une grenade lacrymogène avait été lancée par un policier sur une mosquée du quartier du Plateau à Dakar. On était suivi plusieurs manifestations de colère au Sénégal. On a appris hier que l'une de ces manifestations s'était soldée par la mort d'un jeune à Kaolack dans l'ouest du pays. Les circonstances du décès n'ont pas été précisées. Et puis pour tenter de calmer les esprits, le ministre de l'Intérieur, Ousmane Gom, a rencontré hier le calife général de la confrérie des Tidianes à Kiva.
Erdogan, sérieusement sourci, le porte-parole du calife, a appelé les fidèles au calme et à la sérénité. Enfin, j'ajoute, c'est une semaine du scrutin. Le chanteur et opposant Youssou N'Dour tient un meeting ce dimanche à Paris pour réclamer le départ du président Abdoulaye Wade. Meeting qui doit débuter à 15h en temps universel. Et puis, redynamiser l'UMA, c'était l'objectif du sommet de l'Union du Maghreb arabe qui tenait hier à Rabat. L'UMA qui regroupe 5 pays, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye. L'organisation ne s'était pas réunie depuis 1996. Deux thèmes ont dominé les débats hier, la coopération contre le terrorisme et l'intégration économique. Et les ministres ont fixé la date d'un prochain sommet. Ça sera avant la fin de l'année 2012. Il est 3h40 à Rabat. Vous écoutez RFI, la même heure en temps universel. Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 4h PU. Voici le programme des prochaines minutes. Dans un instant, on va mettre le cap, comme chaque dimanche, sur l'océan Indien. Au sommaire de votre chronique ce matin, le constat dressé par le représentant de la FAO dans l'océan Indien en matière de sécurité alimentaire. La situation est alarmante, nous dira-t-il. Assurant ensuite le journal des sports, avec ce week-end le tour préliminaire de la Ligue des Champions des Coupes d'Afrique des clubs. Et puis quelques minutes avant 4h CU, reportage au sud-est du Cameroun à la rencontre des ex-employés de la CTE, qui est la compagnie de thé, qui a été privatisée en 2002. Depuis 5 mois, ils squattent les locaux de la délégation régionale du travail de Boya. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.
RFI, la Radio Mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la Radio Mondiale, et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est un groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Monsieur le maire, Ike Melondele, Benissa Mwenda, Otala Monte Mananga, Oyeba Esika Nini Natiayo.
Yanga e tonda se maezo e tika. Thank you. Pour s'en faire à croire en les vents, notre roman savant, notre édition de poche, on peut dire qu'on a écrit en sang, on fait notre savant, jusqu'à ce que l'amour nous amache. Mon ménage est détruit, laisse aller en lui, laisse-moi éponger la drame sur le plancher, car dans les doigts, on rentre dans le champ. Fin de ménage est fini, tant pis.
CUT 89-5 FM, Toronto. Février, mois de l'histoire des Noirs. CIT 89,5 FM, la radio de liberté de Toronto.
CIUC 89.5 FM, broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week, from Hart House, University of Toronto. We'll be right back.
Masse, toute première fois. Et oui, mesdames et messieurs, vous écoutez Pourri PIP 89.5 FM. Et pour nous joindre, apot.pourri@sympathico.ca. Si cela vous intéresse, on peut vous envoyer aussi au Carnaval de Rio, qui a donné le coup d'envoi cette semaine au marathon de 5 jours de samba, de musique et de fête, qui doit attirer cette année 5 millions de personnes, dont près d'un million de touristes étrangers. En Guadeloupe, le déboulé de dimanche dernier a été riche en couleurs et original, nous dit-on. Le groupe Explosion a mis en scène une tentative de suicide par amour. Un carnaval qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, mais aussi il y avait des messages très intéressants, de symbolique d'histoire. Public nombreux qui a assisté à ce spectacle, notamment des touristes en nombre plus important que les années précédentes, Guadeloupe. Et puis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un concert, un défilé aussi, sur la place Camille Soprane, pour ceux qui nous écoutent, en direction Guadeloupe. Allez-y. Ben, Haïti, Carnaval 2012, toujours pas un sou de décaissé pour les tailles, ça va mal. Et puis, je vous rappelle, ici dans la région de Toronto, la galerie Glendon, le collège Glendon, propose une exposition des œuvres récentes de l'artiste visuel franco-ontarien Ron Loranger, intitulée Bloblette. D'ailleurs, c'est dans le journal Express de Toronto. Et cela dure jusqu'au 10 mars. Donc, allez-y, allez-y. C'est dans le coin de Bayview et Lawrence. Collège Glendon de l'Université York, c'est un événement dédié à un public curieux des tendances actuelles en art contemporain. Le meilleur artiste des mots, des histoires et de l'image a créé des segments narratifs inspirés des œuvres visuelles de Loranger à travers l'utilisation de matériaux scéniques à voir absolument. Et puis je vous rappelle que l'Alliance française de Toronto vous invite à la galerie Pierre Léon samedi prochain, le 25 février. Si vous recherchez la meilleure façon de ne plus avoir le blues de l'hiver, ben cette année on a été vraiment chanceux, comparable à nos amis européens. Eh bien, le groupe Swamparella vous réchauffera de son gumbo musical épicé venu tout droit de Louisiane. C'est très bon, je vous invite, madame, monsieur, samedi prochain à la galerie Pierre Léon, à partir de, 20h, je pense, une leçon gratuite de danse cajun, nous dit-on. Il y a du... Hein, ça s'annonce, c'est très intéressant. Et puis, exposition de Paul Walty, dessin animé, la boîte à magie, c'est toujours à l'Alliance française de Toronto, Galerie Pierre Léon, 24 Padana Road, c'est prévu pour ce mercredi, le 25 février, Alors, cela vous intéresse, allez-y faire un tour. Cela se termine le samedi 3 mars. Je rappelle que cet artiste, Paul Walty, a amené les élèves, invite les élèves à explorer comment faire bouger leur propre dessin sur papier à la mine de plomb ou en couleur, puis à les enregistrer photographiquement. Allez sur le site web de l'Alliance française de Toronto pour tout savoir. Et nous allons faire un petit détour. Allons-y. Allons-y, monsieur le capitaine. Cette fois-ci, nous allons en Haïti avec Bello à la demande générale d'un auditeur haïtien.
Gen sa ka brye dan Bagay sa man din la Parke nan liye zikan Wazi nan jan fe seye Ka me man loran Me man zel ka ve sou de ton E sou kam la mizmik la ride Gen zan bloke Man jan lo nan bol Me man zel e somake E se kon sa e la pale Tout wazi nan jan tole Ade man sa lo la pale Le nou bon pou Sou le men moun kou men ma pale se pou We'll be right back.
Alice Gaïta sur CIC 89.5 FM de retour. Bienvenue à l'émission.
La bande passante. Alain Pilot, Nicolas Piga.
La bande passante sur RFI.
Jacobaco, notre artiste du Cameroun, torontois, francophone. Bravo.
Mohamed. Au secours, venez nous éviter. L'heure est grave. Les bandits en cause blanc veulent frapper la constitution de mon pays. Les fossoyeurs de la République veulent mettre le lion en cage. Les poutins veulent échapper aux serres et les berbiers. Le peuple est appelé et menacé d'une tentative de hold-up. En vérité, je vous le dis, il veut capable à l'otage.
À la fin de cette émission, et croyez-moi, nous n'allons pas vous implorer à prier avec nous. Nous avons passé pas mal de chansons avec le nom de Dieu. Alors, c'est tout un débat, hein. On pourrait y continuer après ce qui s'est passé à Québec cette semaine. Je rappelle rapidement que le CIF et aussi le Consulat Général de France vous invitent à la rétrospective Robert Bresson, l'un des réalisateurs français de l'après-guerre les plus vénérés. Et cela dure jusqu'au 18 mars prochain, donc une présentation du Consulat Général de France à Toronto, allez sur le site. D'ailleurs, je voulais vous parler de ce César doit mourir des frères Taviani, qui a remporté l'Ours d'or de la Berlinale, le film italien. Donc, César doit mourir a reçu hier l'Ours d'or lors de la cérémonie de clôture de la 62e édition du Festival international du film de Berlin. Et c'est une adaptation libre de Jules César du dramaturge britannique William Shakespeare. Alors, dernière chance, madame, monsieur, la semaine prochaine, si vous voulez participer à l'émission dans le cadre de l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs, vous nous envoyez un message à pet.pourré@sousatico.ca, une façon pour vous, pour nous, de rendre hommage à ces hommes, ces femmes, tout au long du mois de février. Dernière émission, donc, la semaine prochaine, mais comme vous le savez, ici à la maison, on parle de la communauté noire, francophone ou pas. D'ailleurs, peut-on être francophone et noir à Toronto? Est-ce que vous avez des commentaires, des suggestions, d'émissions, des sujets, de débats? Alors, nous sommes là. Et puis, le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, nous allons lancer pas mal d'opérations radiophoniques. Si cela vous intéresse, vous nous envoyez un message à pot.pourré@sympatico.ca. Merci beaucoup au capitaine de Vera, Radio France Internationale, Madame Nignon, et le journal L'Express de Toronto. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même poste, dès 11h. Bonne journée, au revoir.
Yeah. Je suis juste libéré.